Docteur Parmentier de Crux, bonjour et merci d'avoir accepté de participer à l'émission Ligne de Mire. Vous êtes PH et chef du F, du Centre Régional d'Oxygénothérapie Hyperbare, du service de réanimation du CHU de Lille, et vous allez nous parler aujourd'hui de l'oxygénothérapie hyperbare. Quels sont les effets physiologiques de l'OHB ?
Avant d'expliquer les effets physiologiques de la médecine hyperbare, il est nécessaire de définir l'oxygénothérapie hyperbare. L'oxygénothérapie hyperbare est une méthode d'administration par voie respiratoire d'oxygène à une pression supérieure à la pression atmosphérique. On fait donc respirer un patient de l'oxygène pur, soit à travers un masque s'il est en ventilation spontanée, soit à travers une sonde d'intubation, et on comprime la chambre hyperbare à l'air adaptée à une pression définie par la table thérapeutique. Cette pression peut varier en fonction de l'indication. Les effets de l'oxygénothérapie hyperbare dépendent de deux grandes lois physiques que sont la loi de Boyle et Marriott, les volumes sont inversement proportionnels à la pression, et la loi de Henry, la quantité de gaz dissoute dans un liquide est proportionnelle à la pression de ce gaz au-dessus de ce liquide, et ce, à température constante et à saturation. Les effets physiologiques recherchés en médecine hyperbare sont variés, mais ont été découverts à travers de nombreuses études fondamentales animales et humaines. Les quatre grands effets physiologiques de la médecine hyperbare sont les effets sur le transport périphérique d'oxygène, des effets vasculaires, des effets anti-infectieux et des effets sur la cicatrisation. L'effet sur le transport périphérique d'oxygène est la résultante d'une augmentation de la pression dissoute en oxygène, ce qui a lieu en intravasculaire, au niveau artériel évidemment, mais aussi au niveau tissulaire. C'est cet effet tissulaire qui est d'ailleurs le plus important afin d'obtenir des effets thérapeutiques de l'oxygénothérapie hyperbare. Il est donc très important de différencier la pression artérielle en oxygène et la pression tissulaire en oxygène, qui sont deux choses bien différentes et qu'on a tendance pourtant à confondre facilement. La portion dissoute en oxygène est très faible par rapport à la portion liée à l'hémoglobine en normobarie, mais en hyperbarie, cette portion dissoute est beaucoup plus importante. Cela augmente donc franchement le contenu artériel en oxygène, et ceci de manière très rapide. Ainsi, lorsqu'on est à 2,5 atmosphères, le contenu artériel en oxygène, lié à la forme dissoute, est alors suffisant pour l'organisme, même si l'hémoglobine est non fonctionnelle. Ceci est particulièrement intéressant lors des intoxications au monoxyde de carbone, avant même de détoxifier l'hémoglobine. Un autre effet sur le transport périphérique en oxygène est l'augmentation de la distance de diffusion tissulaire de l'oxygène. En effet, l'oxygène n'a pas pour mission de rester en intravasculaire, mais de diffuser au sein des tissus. Ainsi, on augmente le rayon de diffusion de l'oxygène de 4 fois au niveau artériolaire et de 2 fois au niveau vénulaire, ce qui permet d'alimenter en oxygène les tissus qui peuvent être ischémiés, notamment par manque de petits vaisseaux ou à cause d'un œdème local. Enfin, on assiste à une augmentation de la déformabilité érythrocytaire avec une viscosité du sang moins grande et une amélioration du débit microcirculatoire pendant la séance d'oxygénothérapie hyperbare, mais également de façon prolongée après cette séance. L'oxygénothérapie hyperbare a également des effets vasculaires et sont liés à la vasoconstriction hyperoxique que l'on observe lors des séances d'oxygénothérapie hyperbare. Cette vasoconstriction hyperoxique a un effet anti-œdémateux et un effet de redistribution vasculaire. En effet, la vasoconstriction hyperoxique est plus importante dans les zones saines que dans les zones lésées, ce qui a pour conséquence de redistribuer le sang vers ces zones lésées et ischémiques où il y a moins de vasoconstriction hyperoxique. Les effets anti-infectieux de l'oxygénothérapie hyperbare sont assez simples à comprendre. En effet, l'oxygène a une action directe sur les germes anaérobies et est donc bactéricide. Mais il existe aussi un effet bactériostatique sur les bactéries aérobies, car l'hyperoxy hyperbare augmente le potentiel d'oxydoréduction de ces bactéries, ce qui nécessite pour ces bactéries une consommation accrue de NADPH et de NADH. Ce manque d'énergie entraîne pour ces bactéries une diminution de production possible de toxines et une diminution de leur multiplication. En plus de l'effet bactéricide sur les anaérobies et de bactériostatique sur les aérobies, l'oxygénothérapie hyperbare a comme effet de restaurer la bactéricidie des polynucléaires neutrophiles qui sont présents dans les zones ischémiques. L'augmentation de la pression tissulaire en oxygène permet de restaurer immédiatement la phagocytose de ces polynucléaires neutrophiles présents dans ces tissus. De nombreux antibiotiques ont également une efficacité améliorée en présence d'oxygène. Enfin, l'oxygénothérapie hyperbare a une efficacité sur la cicatrisation par augmentation de la néoangiogénèse, de la prolifération fibroblastique et de la synthèse du collagène. Tous ces effets physiologiques sont le ratio physiopathologique de l'efficacité de l'oxygénothérapie hyperbare.
Quelles sont les indications d'OHB en urgence ?
Il existe plusieurs indications en urgence à l'oxygénothérapie hyperbare. Tout d'abord, les accidents de désaturation liés à des accidents de plongée sont des indications reconnues évidemment de type 1, pour lesquelles plus la recompression est rapide, meilleur est le pronostic, notamment lorsqu'il existe des signes neurologiques. Les tables thérapeutiques sont alors assez particulières, mais tout patient avec un accident de désaturation, même s'il arrive tardivement en oxygénothérapie hyperbare, nécessite une recompression en urgence. Les embolies gazeuses sont également une indication en urgence de l'oxygénothérapie hyperbare. Elles sont quasi toujours iatrogènes et nécessitent une recompression en urgence s'il existe des signes neurologiques ou cardiaques. Le pronostic est meilleur si la recompression a lieu dans les 6 heures suivant l'embolie gazeuse, mais tout comme pour l'accident de désaturation, tout patient présentant une embolie gazeuse doit bénéficier d'une séance d'oxygénothérapie hyperbare, même si la prise en charge est tardive. Les intoxications au monoxyde de carbone sont une autre indication, avec recommandation de type 1. Tout patient présentant un signe neurologique, comme une perte de connaissance ou cardiaque, même si ces signes n'existent plus à l'arrivée aux urgences, nécessite une prise en charge en oxygénothérapie hyperbare, idéalement le plus rapidement possible. Par contre, l'intérêt après 24 heures n'est pas démontré. L'intérêt des séances d'oxygénothérapie hyperbare est surtout de diminuer les séquelles cognitives qu'on pourrait constater à 6 semaines ou à 1 an, qu'on appelle également syndrome post-intervalaire. À noter qu'une perte de connaissance, même fugace, est considérée comme un signe neurologique à part entière, même s'il n'y a pas d'autres signes cliniques objectifs neurologiques. Enfin, toutes les femmes enceintes ayant présenté une intoxication au monoxyde de carbone doivent bénéficier d'une séance d'oxygénothérapie hyperbare à cause du risque fœtal. Les dermohypodermites nécrosantes des tissus mous sont également une indication en urgence avec recommandation de type 1, surtout lorsque la gangrène est périnéale. Par contre, ce traitement ne se substitue pas au traitement habituel qui reste d'abord une antibiothérapie et un débridement chirurgical. L'oxygénothérapie hyperbare ne doit donc jamais remplacer le traitement habituel de la prise en charge de ces dermohypodermites nécrosantes. La dernière indication reconnue comme recommandation de type 1 en oxygénothérapie hyperbare en urgence sont certains syndromes d'écrasement. Cela concerne notamment les fractures ouvertes avec délabrement, comme les fractures guistillo 3B et 3C. Je ne ferai que citer les recommandations de type 2 et de type 3 en oxygénothérapie hyperbare en urgence, que sont les lambeaux compromis, les brûlures du second degré de plus de 20% de la surface corporelle totale pour les recommandations de type 2, et les syndromes d'ischémie-perfusion, comme les réimplantations de membres, la drépanocytose et certains cérébro-lésés, comme les anoxies cérébrales par pendaison, pour les recommandations de type 3.
Quelles modifications ont été apportées par la conférence de consensus de 2016 ?
Lors de la dernière conférence de consensus européenne qui a eu lieu en 2016 à Lille, la méthodologie utilisée a été améliorée dans le but d'être en accord avec l'évidence-based medicine. Ces recommandations ont concerné les indications d'oxygénothérapie hyperbare. Toutes les indications ont été revues selon la méthode Delphi, puis un vote du public composé de nombreux praticiens experts en hyperbarie a été réalisé afin d'obtenir également un agrément des différentes recommandations. Lors de cette conférence de consensus, il a été décidé plusieurs modifications des recommandations précédentes. Ainsi, la surdité brusque et la rectite radique sont devenues des indications de type 1. De la même manière, la nécrose de tête fémorale, l'occlusion de l'artère centrale de la rétine, les brûlures de second degré de plus de 20% de la surface corporelle totale et la pneumatose intestinale sont maintenant des indications de type 2. Sont devenues des indications de type 3 certains patients cérébro-lésés avec des critères bien définis, la drépanocytose et la cystite interstitielle. Durant cette conférence de consensus, il a été également décidé de définir des non-recommandations, c'est-à-dire qu'il est recommandé de ne pas traiter certaines pathologies. Ce sont des pathologies parfois prises en charge par nos confrères anglo-saxons, mais dont l'indication d'oxygénothérapie hyperbare ne repose pas sur des arguments scientifiques suffisants. Il s'agit de l'autisme, de la sclérose en plaques, de patients avec une infirmité motrice cérébrale, des acouphènes ou de la phase aiguë d'un AVC. La conférence de consensus est une aide précieuse dans la décision des indications d'oxygénothérapie hyperbare. Il est plus que nécessaire de maintenir un dialogue permanent entre les médecins hyperbaristes et les médecins réanimateurs dans la prise en charge de nos patients.
Docteur Parmentier-Decruc, merci d'avoir participé à ce podcast Ligne de mire qui était consacré à l'oxygénothérapie hyperbare.